VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 en temps universel. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 28 août 2017. Ekiabadou en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, en République démocratique du Congo, les médecins des hôpitaux publics durcissent leur grève. Au Kenya, la Cour suprême saisie par l'opposition rendra sous peu son verdict sur la réélection du président Kenyatta. Houston, dans l'état du Texas, est sous la tempête. Plus de 30 000 personnes attendues dans les centres d'accueil. Paris a abrité un mini-sommet pour tenter de barrer la route à l'immigration clandestine vers l'Europe. Et bien sûr, les sports et l'actualité économique, juste après le journal. En République démocratique du Congo, les médecins ont durci la grève entamée il y a plus d'un mois dans les hôpitaux publics. Seules les urgences sont assurées, mais seulement dans quelques hôpitaux. Claire Morin-Guibourg.
Nous avons radicalisé la grève. Les médecins ne consultent pas, on ne reçoit que les urgences. C'est ce qu'a déclaré le docteur Jean-Robert Mankoy, président du syndicat national des médecins de la République démocratique du Congo. Cependant, les banques de sang et le service de dialyse vont continuer à fonctionner, de même que les hôpitaux de l'armée et de la police. Cette nouvelle forme de grève sera observée jusqu'au 2 septembre. Selon le syndicat, ce débrayage vise à mettre le gouvernement devant ses responsabilités sur la détérioration de la condition des médecins qui ont perdu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat. Depuis le déclenchement de la grève le 21 juillet, aucun accord n'a été trouvé. À une semaine de la rentrée scolaire, les enseignants du public menacent également de ne pas reprendre le chemin de l'école.
Deux soldats et trois miliciens ont été tués en trois jours dans des combats entre l'armée congolaise et des miliciens pour le contrôle d'une localité dans l'est du pays. Une ministre gabonaise a quitté son poste moins d'une semaine après sa nomination. Irène Patricia Boussamba a été entendue dans le passé dans une affaire de corruption présumée. Elle a renoncé à son poste de ministre déléguée du budget pour convenance personnelle avant le premier conseil des ministres de vendredi dernier. Au Nigeria, le feuilleton se poursuit pour l'ex-ministre du pétrole, Madame Moudouenke. La Cour de justice nigériane vient d'ordonner la saisie bancaire de 21 millions de dollars appartenant à l'accusée. Elle est poursuivie pour corruption après la confiscation de nombre de ses biens ces dernières semaines pour des faits commis entre 2010 et 2015. La Cour suprême kenyane a commencé à examiner le recours de Raila Odinga qui conteste la réaction du président Kenyatta lors du scrutin du 8 août. Le point avec Yakuba Wadreogo.
L'opposition a saisi la Cour suprême le 18 août. Les principales figures de la coalition NASA, dont Raila Odinga, estiment que les résultats transmis par le système électoral diffèrent des procès-verbaux issus des bureaux de vote et des circonscriptions. L'opposition kenyane affirme que cela a affecté les résultats d'au moins 7 millions de voix. Pour sa part, la commission électorale assure que les données électroniques ne sont que des statistiques qui n'ont pas valeur de résultat. Elle ajoute que les éventuelles divergences ne peuvent relever que d'erreurs humaines sans incidence majeure sur les résultats finaux. Uhuru Kenyatta a été déclaré vainqueur avec près de 54% des voix et plus de 44% à Raila Odinga. La Cour suprême a jusqu'au 1er septembre, c'est-à-dire jusqu'au week-end prochain, pour rendre sa décision. En cas de validation, M. Kenyatta sera investi une semaine après pour un second mandat. Dans le cas contraire, la commission électorale aura 60 jours pour réorganiser une nouvelle élection présidentielle.
En Afrique du Sud, les musulmans représentent 3% de la population estimée à 56 millions d'habitants. Un groupe de défense des femmes vient d'intenter une action en justice afin d'obtenir la reconnaissance légale des mariages musulmans dans le but de défendre le droit des femmes en cas de divorce car les mariages religieux ne sont pas reconnus. L'action en justice a été présentée devant la Haute Cour du Cap qui devrait statuer dans deux semaines. Deux Marocaines porteuses de marchandises sont mortes dans une bousculade au poste frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Le bilan porte à 4 le nombre de personnes décédées depuis l'ouverture de ce poste frontière début 2017. Les enclaves espagnoles, dans le nord du Maroc, sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe et des accès privilégiés pour l'immigration clandestine africaine. À Houston, au Texas, les opérations de sauvetage se poursuivent suite au passage de l'ouragan Harvey. Les habitants de la quatrième ville des États-Unis ont toujours les pieds dans l'eau et la météo annonce de fortes pluies pour les prochaines 72 heures. Les précisions de Gabi Dorsil. Le président des États-Unis Donald Trump devait autoriser aujourd'hui l'élargissement des transferts de matériel militaire vers la police. Cette initiative abroge les restrictions mises en place par son prédécesseur démocrate Barack Obama. Un attentat à la voiture piégée a fait 11 morts et 26 blessés dans l'un des plus grands centres commerciaux de l'est de Bagdad. Des membres des services de sécurité se trouvaient parmi les victimes. L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué, mais il rappelle le mode opératoire de l'État islamique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a défendu aujourd'hui devant les dirigeants israéliens à Jérusalem le rêve de voir un jour un État palestinien vivre en paix avec Israël. Monsieur Guterres répondait aux accusations de parti pris anti-israélien et a revendiqué le droit de critiquer les politiques israéliennes vis-à-vis des Palestiniens. On revient sur l'actualité française avec le président français Emmanuel Macron qui propose d'identifier au Niger et au Tchad les ressortissants qui ont un droit d'asile pour les mettre en sécurité le plus rapidement possible. L'annonce a été faite à l'issue d'un mini-sommet à Paris sur la crise migratoire. Bagassi Koura.
Oui, la procédure de demande d'asile commencera dès le territoire africain. Selon Emmanuel Macron, elle sera menée dans des zones identifiées pleinement sûres au Niger et au Tchad sous supervision du ACR. Le mini-sommet de ce soir sur la crise migratoire s'est tenu en présence de plusieurs dirigeants européens, mais aussi des leaders du Tchad et du Niger et de la Libye, pays de transit des migrants. Macron espère que cela permettra d'éviter à des femmes et des hommes de prendre des risques inconsidérés dans une zone extrêmement dangereuse, puis en Méditerranée. Mais il y a aussi une action de coopération en matière de sécurité, de justice et parfois une présence militaire pour prévenir d'autres débordements et l'accroissement de flux vers la Libye. La tragédie de la migration clandestine, il faut le dire, a fait quelque 14 000 morts en Méditerranée depuis 2014.
Merci Bagassi Koura. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique. Suivez la Minute Éco avec Dili Diko. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Diko.
En RDC, les autorités ont mis en place une restriction temporaire d'importation de plusieurs produits de grande consommation dans l'ouest du pays. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce, a indiqué qu'il s'agit d'une interdiction de 6 mois, dont l'objectif est de lutter contre la contrebande et de protéger l'industrie locale de ceux qui pratiquent des prix en dessous du coût de production. Les produits concernés sont le ciment gris, le sucre, la bière et les boissons gazeuses. Le ministre a également interdit l'exportation des écorces de quinquine pour privilégier leur transformation en antipaludéens par l'industrie pharmaceutique congolaise. Au Nigeria, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, veut construire une université de classe mondiale à Abuja. La fondation Dangote a annoncé qu'un financement de 550 millions de dollars a été alloué à ce projet et le terrain devant accueillir la nouvelle infrastructure a déjà été acquis. L'université sera axée sur la technologie avec des enseignants de renommée mondiale. En Angola, 131 000 emplois ont été créés dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie au cours des 8 premiers mois de 2017. Eugenio Clemente, directeur de l'Institut de développement du tourisme, a indiqué que la majeure partie de ces emplois est allée en direction des jeunes. En 2016, les entrées dans le pays ont reculé d'environ 50 000 unités par rapport aux 600 000 visiteurs de 2015, mais 2017 sera placé sous le signe de la reprise.
Et maintenant les sports avec Yakuba Ouadréogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Ousmane Dembélé a foulé pour la première fois la mythique pelouse barcelonaise.
Tout à fait, l'attaquant français recruté vendredi par le FC Barcelone pour 147 millions d'euros, bonus y compris, a été présenté au Camp Nou devant 18 000 supporters. Arrivé pour 5 ans, Dembouze, comme on l'appelle affectueusement, a hérité du numéro 11 de Neymar avec la lourde tâche de succéder au Brésilien au sein de la ligne d'attaque du Barça. À 20 ans, le Français devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire des transferts, derrière les 222 millions d'euros de Neymar.
Joie de Dembélé, colère de Seri qui a manqué de peu d'être au Blaugrana cette saison.
Et oui, le milieu ivoirien de Nice, Jean-Michel Seri, pressenti pour rejoindre le FC Barcelone avant que les négociations se grippent, a vivement reproché aux dirigeants niçois de n'avoir pas tenu leurs promesses. Seri, 26 ans, explique que l'opération ne s'est pas concrétisée à cause des exigences financières de l'OGC Nice qui a demandé plus de 40 millions d'euros au Barça avant la libération du joueur. Le sort de l'Ivoirien a été scellé par le club espagnol qui a déclaré aujourd'hui même que la piste Jean-Michel Seri est désormais écartée.
Retour sur l'Afrobasket Mali 2017 et clin d'œil à Astou Traoré.
Oui, à 36 ans, la Sénégalaise a été élue meilleure joueuse du tournoi. Déchue du titre de championne d'Afrique par le Nigeria, la joueuse peut se contenter de ce trophée. Elle a terminé meilleure marqueuse avec un total de 173 points. Dans le 5 majeur du tournoi, en plus de Traoré, on retrouve Nanyuma Koulibaly du Mali, Leia Dongue de la Mozambique, Evelyne Akator du Nigeria et Aitele Lucas de l'Angola.
Et pour terminer de la boxe, nous revenons sur les chiffres du combat dit du siècle.
Le choc entre la légende des rings Mayweather et la star des arts martiaux mixtes Conor McGregor, les deux combattaient pour la première fois en boxe pure. Un combat suivi dans un milliard de foyers à travers le monde, 200 pays, 20 000 spectateurs. Les contrats de sponsoring et de la billetterie ont dépassé les 700 millions de dollars. Certains spectateurs ont déboursé jusqu'à 102 000 dollars pour être le plus proche possible du ring. 100 dollars à payer pour suivre le combat à la télévision. Finalement, c'est l'expérimenté Mayweather qui l'a remporté sur KO technique à la 10e reprise, soulevant la ceinture en cuir d'alligator, serti de 3 360 diamants, 600 chafis et 300 émeraudes. Il empoche en plus 250 millions de dollars, soit quelques 130 milliards de francs CFA.
Merci, Yacouba. En nouvelle internationale, à Houston, au Texas, les opérations de sauvetage se poursuivent. Suite au passage de l'ouragan Harvey, les habitants de la 4e ville des États-Unis ont toujours les pieds dans l'eau et la météo annonce de fortes pluies pour les prochaines 72 heures. Les précisions de Gabi Dorsil.
Les secouristes font de leur mieux pour atteindre des milliers de personnes isolées sur leur toit ou dans une chambre à moitié envahie par les eaux. Pour Gérald Gauthier, avec la persistance des averses, il ne peut que se remettre à la Providence.
On prie Dieu, il y a beaucoup de maisons qui disent qu'ils sont envahies. Les gens doivent rester sur le toit pour être évacués. Les services publics ont continué de fonctionner dans certaines maisons. Chez nous, on a de l'eau et de l'électricité.
Certaines localités ont déjà enregistré plus de 60 cm de pluie. Les services d'urgence sont dépassés. Des citoyens ont utilisé leur propre bateau pour secourir leurs voisins. Quant aux autorités, écoutez Brock Long, directeur de FEMA, l'agence fédérale de secours. Nous essayons d'aider, de renforcer les efforts de recherche et de sauvetage rapide sur une vaste étendue, car plus de 30 à 50 comtés auront été éventuellement touchés au Texas, dit-il. Le président Donald Trump se rend sur les lieux demain. Son administration a promis de l'aide au Texas et à la Louisiane après le passage de l'ouragan.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent sur les dossiers du jour et on commence par la République démocratique du Congo. Kinshasa a décrété un deuil national de 2 jours à la mémoire d'au moins 140 victimes d'un glissement de terrain près du village de Tara dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Cette mesure intervient 12 jours après le drame. Morgane Guiriek a joint Nikes Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni.
L'ambiance n'est pas extraordinaire. D'habitude, lorsqu'il y a deuil national, ça se remarque par les drapeaux. Tous les drapeaux sont en berne. C'est ça le grand signe du deuil national. Pour le reste, les activités continuent normalement. Mais le symbole de l'État, qui est le drapeau, est en berne un peu sur toute l'étendue du territoire national.
Ce deuil est décrété 12 jours après la catastrophe. Comment l'expliquer?
Il faut dire que nous sommes un pays qui traverse beaucoup de moments très difficiles. C'est vrai, ça ne peut pas expliquer cela, mais la mobilisation a été trop faible, que ce soit au niveau national qu'international. Dans ses débuts, le gouvernement provincial de l'Ituri a été sur le lieu et a essayé de faire tant bien que mal ce qu'il lui convenait de faire. Et ce n'est que cela a 2-3 jours que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu là-bas et c'est à la suite de l'évaluation et de l'aide qu'il a apportée qu'on a décrété le deuil national. C'est vrai, comme vous le dites, ça a quand même pris du temps pour décréter le deuil, mais bon, on peut expliquer que le gouvernement central avait besoin d'avoir tous les paramètres possibles, mais bon.
Où en sont les autorités dans la gestion de la crise?
La mobilisation, elle est trop faible. Il faudrait que tous les bras puissent concourir à ce que la population soit soulagée. D'abord, arriver à trouver des logis, à déplacer toutes ces populations qui étaient sur des escarpements, leur trouver un endroit viable et leur apporter de l'aide nécessaire, éviter aussi des épidémies. Et là, il faut nécessairement compter sur la mobilisation de la communauté internationale, mais pas seul le gouvernement congolais ne peut rien faire.
Quelles sont les leçons à tirer? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cela?
Il faudrait qu'il y ait un plan d'aménagement du territoire pour trouver des sites viables. Le village a été construit pratiquement en dessous des grosses pierres. Alors il a suffi simplement que les pierres se détachent pour tomber sur la population. Donc il faut un plan vraiment urgent d'aménagement. L'urbanisation qui doit tenir compte aussi de la démographie galopante, parce que ce problème ne se pose pas simplement à Ituri, ça se pose aussi à Kinshasa. Et dans la ville de Beni où nous nous trouvons, le maire de la ville d'ailleurs a demandé à la population qui vit dans les mêmes conditions, donc sont sous les escarpements, de vider les lieux. Donc il n'y a pas une politique générale qui puisse aider la population à s'installer en tenant compte des conditions naturelles qui puissent exister dans notre pays.
Nikes Kibel Beloka du journal Les Coulisses à Beni. En Côte d'Ivoire, les médicaments de rue sont toujours visibles dans la capitale économique Abidjan, malgré la machine répressive menée par le gouvernement. Notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tunkara, s'est rendu dans la commune d'Adjamé, l'un des points névralgiques de la vente de ces médicaments.
Alors dans le quartier où nous nous trouvons pour l'instant, il pleut beaucoup. La pluie s'arrête, la pluie revient. L'eau inonde certaines portions du quartier. Les routes sont inondées, mais ça monte et ça descend. C'est pas une situation figée, donc c'est toujours en évolution.
Vous avez dû évacuer votre maison?
Oui, nous-mêmes, hier soir, on a préféré, comme nous avons une maison de plein pied sans étage, nous avons préféré ne pas prendre de risques et nous avons pu aller chez des amis. Donc on a pu traverser quelques rues à pied, on avait de l'eau jusqu'à mi-cuisse pour arriver jusqu'à chez nos amis, mais on a pu arriver et on a pu passer la nuit chez eux au sec.
Quelle est la situation à Houston on est en fin de matinée à l'heure où on se parle.
Tout à fait. Écoutez, pour ce qu'on peut dire pour nous et puis pour nos amis et les personnes avec qui j'ai pu être en contact par Facebook et compagnie, pour l'instant, les gens sont plutôt au sec. Il y a eu quelques situations dans certaines familles où l'eau était un petit peu au rez-de-chaussée de la maison, mais sans grande gravité. Et puis il y a une solidarité qui s'organise entre les personnes, les voisins, les amis, les voisins américains, tout le monde communique beaucoup et essaye d'apporter un maximum d'aide aux personnes qui en ont besoin. Donc, pour l'instant, c'est très calme. On est tous un peu dans l'attente et le statu quo et on essaye d'avoir des nouvelles d'autres personnes et de voir que tout le monde va bien.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à cause des deux barrages qui menacent de se fissurer ou de se casser?
Oui, il y a une inquiétude, on ne va pas le nier, mais on espère que les ingénieurs qui contrôlent ces barrages vont pouvoir continuer de la relâche de l'eau en toute sécurité. Donc, pour l'instant, la première relâche s'est plutôt bien passée. Il n'y a pas eu. On s'attendait à pire et pour l'instant dans notre quartier et nous on est vraiment à l'est, au sud-est de ces barrages et pour l'instant le niveau de l'eau n'est pas pire qu'il n'était avant la relâche de l'eau. Donc on espère que ça va être bien pris en main par les autorités et de toute manière il n'y a pas de raison.
Vous venez d'écouter Claire Plessis, habitante de Houston et présidente de l'association Houston Accueil. En Côte d'Ivoire, les médicaments de rue sont toujours visibles dans la capitale économique Abidjan, malgré la machine répressive menée par le gouvernement. Notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tunkara, s'est rendu dans la commune d'Adjamé, l'un des points névralgiques de la vente de ces médicaments.
Un remontant, la fatigue.
Nous sommes au cœur du grand marché d'Adjamé, plus précisément à Roxy. Ici, c'est la plus grande pharmacie à ciel ouvert de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest. Le 3 mai dernier, une centaine de policiers ont pris d'assaut cette place. Les échoppes en tôle des commerçantes ont été détruites. 30 tonnes de médicaments saisies. 3 mois après, les commerçantes et leurs médicaments sont de retour. Comment donc expliquer le retour de ces vendeuses à Adjamé Roxy? Pour le docteur Omar Toué du comité de lutte contre le trafic illicite et la contrefaçon des médicaments, il faut leur trouver d'autres activités et s'attaquer aux réseaux internes d'approvisionnement.
Comme la majorité, elles sont environ 8000 femmes. Il y a le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant qui doit pouvoir les approcher pour les réinsérer dans la vie. Quoi qu'on dise, c'est des mères de famille qui s'occupent de leur famille. Certaines personnes du secteur pharmacie qui sont véreuses, qui approvisionnent. Mais je pense qu'ils sont très infimes. Une des causes aussi du retour, c'est que les opérations sont ponctuelles.
À Adjamé Roxy, on trouve un peu de tout, des antibiotiques, des antipaludéens et antirétroviraux. Pour docteur Omar Toué, la pauvreté et l'ignorance sont des causes de l'intérêt du grand public pour ces produits.
Il y a la pauvreté qui est annoncée comme une des causes. Cela n'est pas toujours vérifié dans la mesure où les médicaments antipaludiques, par exemple, les antipaludiques, les antituberculeux et les antirétroviraux qui sont gratuits, les gens préfèrent aller payer au marché noir ces médicaments-là, alors que dans le public, ces médicaments sont gratuits après une consultation. La principale raison, c'est le manque d'information. Les gens ne sont pas informés sur la dangerosité de ces médicaments, c'est-à-dire les risques liés à l'utilisation de ces médicaments de la rue. Et troisièmement, une des causes, c'est l'absence de sécurité sociale.
Dans les rues d'Abidjan, les avis sont partagés sur ces médicaments.
On n'a pas de moyens pour aller à la pharmacie, pour aller à l'hôpital. Pareil, souvent, quand on va à l'hôpital, ordonnance qu'on nous donne, on n'arrive pas à payer.
Compte tenu des effets néfastes des médicaments de la rue, voilà pourquoi je n'achète plus. Puisque j'ai constaté que souvent, ça engendre certaines maladies.
Selon le gouvernement ivoirien, le marché des médicaments illicites représente 30% des ventes des médicaments en Côte d'Ivoire. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de plus de 40 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards de taxes destinées à l'État. Georges Brahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'Aïd Al-Adha ou l'Aïd El-Kébir, appelé Tabaski, est la fête la plus importante de l'islam. Au Sénégal, la vie est rythmée depuis plusieurs jours par les préparatifs de cette fête. Se procurer un mouton peut vite devenir un casse-tête, les habits sont coûteux. Le marché HLM de Dakar résume cette fête religieuse, agrémentée par une culture trop festive. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydana Abagay.
Cette année, les ventes ne marchent pas tellement, car les pluies fréquentes nous obligent à couvrir nos produits en permanence, ce qui restreint leur visibilité.
Comme Major, les marchands ne sont pas vernis à cause de l'hivernage, contrairement aux tailleurs qui se frottent les mains. Au milieu des crépitements de ces machines, la Sanadjara confie ses bonnes affaires.
En ce moment, on ne se plaint pas trop, car les affaires marchent bien. D'habitude, c'est les coupures d'électricité qui nous handicapaient. Mais maintenant, il n'y a presque plus de délestage. C'est plutôt nos clients qui nous posent des soucis avec leurs nombreuses réclamations et leurs pressions constantes. Mais nous essayons toujours d'être compréhensifs, car à la fin, on y trouve notre compte. Malgré la conjoncture, les tissus et les boubous coûtent au minimum entre 10 et 15 000 francs.
Non loin de l'atelier de l'Asana, Hassan Diop se pavane au milieu de ses dizaines de moutons. Il souhaite les vendre à bon prix, mais il est aussi inquiet pour certains chefs de famille.
Au Sénégal, les moutons ne sont pas accessibles pour tous. Même quand il y en a beaucoup, les prix ne sont pas très abordables. Et c'est assez normal, car nous achetons les moutons chers. Ensuite, nous nous occupons d'eux pendant plusieurs semaines. De ce fait, à la revente, nous sommes obligés de penser à faire des bénéfices. Ce qui fait que les prix sont toujours élevés. D'un côté, nous pensons aux chefs de famille qui tirent le diable par la queue pour trouver un mouton et passer la tabaski dignement. De l'autre, nous sommes conscients qu'il y a des gens qui peuvent acheter nos moutons, quel que soit le prix.
Pour Ndaïli Segueï, il est tout à fait normal de faire toutes ces dépenses pour une fête aussi prestigieuse que la tabaski.
C'est une tradition bien sénégalaise. Personne n'y peut rien. Au Sénégal, nous sommes des musulmans qui tenons beaucoup à cette fête, qui d'ailleurs est la plus grande et la plus belle pour notre communauté. C'est pourquoi nous mettons tout ce que nous avons. Toutes nos économies y vont. Nous achetons des chaussures pour les enfants, des moubous et tout ce qui peut rendre cette fête belle. C'est vraiment une grosse dépense financière.
Au Sénégal, les traits culturels déteignent sur la pratique religieuse au point que la tabaski y est fêtée avec un faste qui n'a pas son pareil dans la sous-région africaine. Même le mouton, élément le plus symbolique de cette fête, est devenu un véritable casse-tête pour les chefs de famille qui sont obligés d'en trouver le plus cher possible pour le simple paraître social. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise en onde par Joselle Morissin, présentation Ekiabadou. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité continue sur la page Facebook VOA Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à tous.